Si équilibré que ça en fait le trio, c'est trois points qui basculent toujours les uns sur les autres, c'est-à-dire que la pointe du triangle n'est jamais la même, le sommet du triangle n'est jamais le même. En fait, c'est ça que j'aime bien dans le trio, c'est qu'on est très exposé. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis revenu au trio, c'est que dans les chantiers, les travaux, les orchestres sur lesquels j'ai monté précédemment, en fait, j'étais moins exposé comme soliste. Et là, j'avais envie de me coltiner un peu plus cette place de soliste, d'attaquant de pointe, quoi. Justement, c'est le cas de le dire. Et donc, j'ai écrit la musique pour ça aussi, pour qu'il y ait de l'espace pour l'improvisation et pour le chorus dans la tradition un peu jazz du chorus, quoi. Dame, Hélène Labarrière, contrebassiste, parcours assez classique au départ. Elle commence à Paris dans les clubs de jazz, très jeune, contrebassiste, sidewoman, plus exactement. Elle joue avec des tas de gens, elle joue dans le big band de Gérard Badini, elle joue aussi avec les Canids, elle fait partie des rythmiques de base de certains clubs parisiens célèbres à l'époque, comme le Petit Opportun ou le Luc Guélombard. Choses comme ça. Et puis, dans les années 90, elle commence à s'orienter vers une musique plus européenne, plus ouverte, basée sur l'improvisation pure, si on peut dire. J'aime pas trop dire ce mot-là, parce qu'il n'y a pas d'improvisation pure, heureusement. Il n'y a pas de musique pure, heureusement. Et on se rencontre à peu près à ce moment-là, sur des terrains musicaux qui sont un peu différents de ceux du jazz, puisque moi, je ne viens pas du tout de ce parcours du jazz. Hélène Labarrière vient de ce terreau-là du jazz, quoi, du jazz américain et du répertoire du jazz américain. Et puis Simon Goubert aussi, en fait, est un batteur qui est passé par l'expérience Christian Vander, Magma, etc., mais qui aussi qui a beaucoup passé sa jeunesse, sa genèse de musicien dans les clubs de jazz comme batteur de jazz. Et donc j'ai voulu réunir ces gens-là parce que justement ils portaient une partie de cette histoire-là. Et que peut-être moi j'avais aussi envie de, non pas de renouer, puisque j'ai jamais vraiment roulé ma bosse dans le jazz traditionnel, entre guillemets, le jazz mainstream comme on dit, mais j'avais envie de réintégrer ce background-là dans mon travail à moi. Donc j'ai fait appel à ces deux-là, et avec l'intuition que justement avec cette histoire un peu commune qu'ils ont, bien qu'ils n'ont pas joué ensemble à l'époque, que cette histoire un peu commune leur permettrait de trouver facilement le joint pour jouer ensemble, quoi. Et à partir de là, partir vers d'autres choses, et en même temps renouer avec le choix de ces personnes. Il correspond aussi, en ce qui me concerne, à l'envie de me rattacher aussi à de retourner finalement dans cette histoire de jazz que j'ai pas vécu, puisque moi j'ai commencé dans les années 80 en fait à faire de la musique, et en France, les années 80-85, par là, et à ce moment-là on était dans une période très très jazz français qui voulait vraiment se différencier du jazz américain. Puis je me suis rendu compte plus tard que j'avais besoin aussi des éléments de ce jazz anglo-saxon, quoi, et donc voilà, donc j'essaye de boucler la boucle Voilà, avec ces gens-là qui sont des gens très très ouverts et qui considèrent cette musique seulement comme une base de travail, une base profonde, une base comme un socle réel, et en même temps qui sont très prêts à bouger par rapport à ça, quoi. Le label Indacore, c'est un label qui est tenu par un musicien qui s'appelle, qui a été créé par, fondé par Jackie Mollard, qui est un musicien dont on connaît le travail, qui est un peu en dehors des clous de la musique traditionnelle, qui est à la fois très ancré dedans et en même temps qui cherche à ouvrir les choses. Il y a Eric Marchand, dont on connaît aussi le travail de métissage avec des musiciens indiens, avec Thierry Robin. Et puis le troisième, c'est Bertrand Dupont, qui est un opérateur culturel, comme on dit, qui a fondé la Grande Boutique, qui est un lieu de diffusion artistique et culturelle en Centre-Bretagne, surtout axé sur la musique, et qui lui a roulé sa bosse entre les musiques traditionnelles, entre la pop, le rock, parce qu'il a travaillé à Rennes à l'époque, la grande époque, etc. Donc c'est quelqu'un qui est transversal aussi, Bertrand Dupont, qui fait un travail, et donc tous ces gens sont dans un état d'esprit d'ouverture, et me semble-t-il, je voudrais pas parler à leur place, mais ils ont souhaité à un moment donné faire valoir cette notion de transversalité de la musique et dire certes la musique bretonne a un ancrage, elle est là, elle existe et c'est sa force, mais en même temps ce qui fait sa force c'est sa capacité à se mettre en relation et en relativité avec d'autres formes de musique. Et donc à partir de là, ils ont créé comme le jazz finalement, en fait. Ils ont une approche très jazz en fait finalement par rapport à l'histoire du jazz, c'est comme ça que ça a avancé le jazz, dans des musiques très ancrées, qui étaient très ancrées dans les populations dans lesquelles elles étaient jouées et qui se sont enrichies de tas d'autres choses finalement, c'est très jazz, ils sont peut-être plus jazz que certains festivals de jazz entre guillemets qui font leur truc dans leur coin, bon bref ça c'est une autre histoire, et donc à partir de là ils ont voulu créer cette collection parallèle qui est incluse dans le label Inaccord, qui s'appelle Inna Plus. D'accord. Et qui est une sorte de catalogue entre de musique ouverte on va dire, d'autres musiques quoi. Le premier opus du label quand même, du catalogue, enfin de la collection Inna Plus, c'est quand même un duo entre Erwan Caravec, qui est un musicien vraiment inscrit dans la musique traditionnelle bretonne avec la cornemuse etc, et Jean-Luc Capozzo qui est inscrit, donc là le postulat est posé quoi, la problématique de la thèse est posée, voilà, on symboliquement ils ont posé les choses. Bon, je parle un peu à leur place, je pense qu'ils répondraient mieux que moi là-dessus, mais il me semble que c'est dans cette logique-là que ça s'inscrit. Le projet de départ, si je viens un peu d'y répondre en fait, c'est-à-dire que une manière de mon histoire qui n'est de faire le lien entre mon histoire qui est celle d'un certain justement, je vais paraphraser un peu les gens de l'ARFI qui m'ont beaucoup marqué quand j'ai commencé à travailler, de trouver de mettre en jeu cette espèce de folklore imaginaire de la musique improvisée, du jazz français, dans lequel je suis né, par Texier, par Sclavis, par Portal, par des gens comme ça, et de le mettre à l'épreuve de cette histoire de la musique improvisée, universelle qu'est le jazz, quoi. Le jazz ne voulant pas dire grand chose, Le jazz, c'est un terme générique extrêmement général qui regroupe des choses très précises, très très différentes les unes des autres, hein. Mais voilà, donc j'avais envie de cet imaginaire-là, cet imaginaire d'une certaine musique improvisée européenne, le remettre dans la dynamique d'une rythmique, quoi. Et donc d'où le trio, cette forme effectivement quand même assez traditionnelle dans cet idiome, quoi. On a dit à Ornette Coleman qu'il n'était pas à sa place quand il a commencé à jouer, parce qu'il avait supprimé les places. Justement, c'est-à-dire que la place, elle dépend du cadre qu'on définit au départ. Si on est dans le cadre ou hors du cadre, après les cadres, il y en a des millions, il y a aussi des non-cadres qui sont des cadres. Donc, quand plus rien n'est à sa place, on se perd. Et c'est ça aussi qu'on cherche dans cette musique. On cherche une perdition, on cherche des fois à se perdre pour pouvoir... pour être obligé d'être ailleurs, quoi. Quand on est perdu, c'est peut-être là qu'on a le plus d'imagination, quoi, finalement. Parce qu'on est dans une sorte de... Le jazz, c'est une manière de transformer la détresse de la perdition en créativité, quoi. Et bien sûr qu'on se perd. On se perd parce que Simon Goubert est un batteur très très mobile, très très... comme je dis moi, il critique au sens positif du terme, il critique la structure, c'est-à-dire qu'il l'interroge, il l'interroge, il essaye de la, il éprouve, il essaye de la mettre à l'épreuve, il se met à l'épreuve là-dedans. Et par le moment, il y a de la chute là-dedans. Il y a une chute, mais c'est comme la chute d'Alice dans le roman de Lewis Carroll, c'est-à-dire qu'on bascule dans un autre monde, et des fois, on a besoin de cette chute pour pouvoir aller ailleurs par force, quoi. Tous les cas de figure de relationnels sont possibles, il faut les accepter. Ça fait pas mal. Comme disait Jean-François Jenny Clark, de toute façon, l'expérience prouve qu'on arrive toujours à la fin d'un concert. Donc ça fait pas mal. Il y a des métiers bien plus dangereux que musicien de jazz. C'est effectivement un thème important que j'ai remis aussi en exergue aussi dans mon travail. C'est-à-dire que oui, j'ai renoué avec. Dans les travaux précédents, j'étais plus sur des questions de structuration, de découpage rythmique, d'articulation, etc. Là, je cherche une voix VOX. Vraiment, je cherche une voix, je cherche un chant, effectivement. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis le trio, c'est-à-dire que je voulais aussi que la masse orchestrale autour de ce chant soit relativement maigre, de manière à ce que le chant puisse ressortir. Après, bon, un chant, il faut qu'il soit porté aussi. Bon. Avec Simon Goubert et Hélène Labarrière, c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à eux. C'est parce que Hélène Labarrière a un grand lyrisme dans son assise rythmique, finalement, et Simon Goubert dans son articulation et dans la manière dont il joue le temps et dans la manière dont il se place dans l'espace. D'un point de vue du timbre, il y a beaucoup de lyrisme aussi. Et ça m'aide beaucoup. Le chant. Oui, je suis revenu au chant avec le trio, oui, ça c'est vrai. Quand on est dans cette posture de chant, on a une préoccupation sur le son, sur le souffle, sur la durée des notes, sur le timbre, sur... voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu revenir à des formes relativement simples, pour pouvoir laisser ce chant s'exprimer sans être trop contraint par une structure complexe, voilà. Je trouve qu'on est dans une période qui est assez sombre, qui est assez morose, mais en même temps, dans cette période qui est sombre et morose, on est toujours des gens vivants. Et être vivant, c'est arriver à tirer parti d'une époque. Tirer parti de... Alors il y a des époques où c'est plus facile que d'autres. Mais cette époque-là est difficile, mais en même temps, elle nous oblige à trouver la ressource de persister dans l'existence, quoi. De vouloir vivre. plus que jamais, et de la révolte, de l'indignation, comme dit Essel, l'écrivain. Il faut s'indigner, quoi. Et s'indigner, moi j'essaie de m'indigner en envoyant une sorte de message poétique et en disant je ne suis pas en train de dire que oublions la tristesse et l'amorosité du moment et soyons gays pour un instant. Je dis de cette contrainte sociologique, sociale qui nous appuie sur la tête, essayons de sortir quelque chose, de continuer. Si, moi, je pense très humblement à Olivier Messiaen qui écrit Le Quatuor pour la fin des temps dans un camp de concentration. La contrainte morale, physique, elle est bien plus forte qu'aujourd'hui. Donc, il doit y avoir moyen de continuer à créer de la poésie aussi, et puis il faut se servir. C'est pas du cynisme, hein. Il faut répondre, il faut essayer de redresser la tête, et redresser la tête, c'est dire non, mais vous nous empêcherez pas de continuer à imaginer, quoi. Et notre imagination, elle suffira pas, mais en tout cas, elle nous permettra d'avoir envie de faire la révolution. L'imagination suffit pas, faut travailler derrière, mais voilà, vous nous aurez pas comme ça, quoi. Et développer notre imaginaire. Je suis pas en train de dire que l'artiste a une fonction révolutionnaire, parce qu'il y a des artistes qui sont pas plus clairvoyants que d'autres gens d'un point de vue de la politique ou d'un point de vue de l'évolution d'une société. Les artistes, s'ils peuvent apporter une chose, c'est de dire hey, les mecs, et si on regarde le truc autrement pour voir ce que ça fait. Prenons du recul. Essayons de prenons un recul poétique par rapport à la société. Regardons-la en nous disant qu'on en y mettant notre subjectivité et pas en la subissant sous la soi-disant objectivité du libéralisme, de l'ultralibéralisme et de la fatalité économique. Quoi. S'il a une fonction dans la collectivité, dans la société dans laquelle il s'exprime. Le concert, c'est un ensemble de choses. Le concert, ce ne sont pas que des musiciens qui jouent sur une scène, ce sont des musiciens qui jouent sur une scène dans un rituel qui est le spectacle. Et ce rituel ne dépend pas que de ce qui se passe sur scène, il dépend de l'ensemble des choses. Et les gens, même s'ils ne participent pas directement à l'établissement des choses, j'entends, en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'entends les impliquer d'une certaine manière dans mon processus créatif. C'est pas mon processus créatif. Moi, j'ai une fonction dans ce rituel, qui est le spectacle, qui est le rassemblement des gens. C'est ma fonction. Ma fonction, c'est d'envoyer un signal sonore qui se fait de la musique, qui fait que les gens m'écoutent. Et comme dit Pierre Soulages, chacun à sa manière. Je ne parle pas de public, je ne parle pas d'un public, je parle des gens. Chaque auditeur a un point de vue. Je suis une des personnes qui constituent le concert. Comme chaque auditeur, moi je suis celui qui envoie le signal. Mais tout ça marche ensemble et je tiens énormément compte. Je ne crois pas aux musiciens qui disent de toute façon je joue pareil, que les gens soient là ou non. Et que les gens soient là ou non, je m'en fous, c'est pas mon problème. Je n'y crois pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne fonctionne pas comme ça. Et on ne monte pas sur scène, on ne se fait pas payer pour faire un concert en disant je me fous des gens. C'est pas une question de moralité, c'est une question que, à un moment donné, ne pas avoir conscience que vous avez une dizaine, une centaine ou un millier de personnes qui vous écoutent et que ça ne vous fasse rien quand vous êtes en train de jouer devant eux, c'est une forme d'autisme. Bon, ça donne des choses, hein, ça donne des choses intéressantes. C'est pas mon truc. Le processus du concert, c'est un processus vivant qui fait qu'on ne sort pas, du concert avec les mêmes convictions que celles avec lesquelles on est rentré. Parce qu'on a passé du temps avec quelqu'un qui vous a raconté quelque chose d'autre Et donc à partir de là, on se transforme, des fois plus ou moins consciemment. D'ailleurs.